La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Une journée décisive pour l'épineux processus du Brexit entamé il y a un peu plus de 2 ans.
Oui, difficile de l'ignorer quand on parcourt la presse britannique ce matin aux côtés des photos de la famille royale réunie pour les 70 ans du prince Charles. On voit donc que ce qui va se passer cet après-midi au Royaume-Uni sera essentiel. La Premier ministre Theresa May va défendre face à son propre gouvernement l'accord technique qui a été conclu hier avec les négociateurs européens sur le Brexit. Donc, et voici venu l'heure de vérité pour May, titre de concert, le Financial Times et le Daily Telegraph, le jour du jugement même pour le Daily Mail, quand le Daily Express nous explique que la chef du gouvernement va livrer à 14h le combat de sa vie, à moins que ce soit son combat pour vivre. Car l'affaire est loin d'être gagnée d'avance, s'accordent à dire les quotidiens outre-Manche. Pourtant, cet accord technique sur le Brexit, c'est le meilleur que le Royaume-Uni puisse espérer, selon l'Express. À en croire, cette fois, le Guardian, Theresa May, va dire à ses ministres, voilà l'accord, il n'y en aura pas d'autre, alors soutenez-moi enfin. Mais le quotidien, comme tous ses concurrents, anticipe déjà les critiques, les divisions, les accusations de trahison et les règlements de compte qui vont surgir. Au moins 4 ministres de la vie générale pourraient quitter le gouvernement dès ce soir. Le moment, on l'a compris, est hautement dramatique. Et d'ailleurs, sur les antennes de la BBC, la spécialiste des questions européennes, Katia Adler, s'amuse du décalage entre cette dramaturgie du moment de vérité, du dos au mur entretenu par les médias britanniques et le grand calme qui règne au même moment dans les cercles du pouvoir européen. Car en fait, on n'est pas tant que ça au pied du mur. Au moment du jugement dernier, celui où ça passe ou ça casse, dans l'accord technique conclu hier, il reste encore de la place pour négocier sur les détails tant que l'ensemble n'est pas remis en cause et que l'on signe bien un accord politique définitif avant le mois de mars. Du coup, on ne peut s'empêcher de penser avec Katia Adler que la frénésie dramatique qui s'est emparée du Royaume-Uni hier est bel et bien entretenue pour servir les intérêts de la Première Ministre, l'aider à convaincre sous la pression, comme quoi c'est au pied du mur qu'on voit le stratège politique.
Et puis Camille, à Palerme, les partisans et les participants à la conférence internationale sur la Libye se sont séparés hier soir sans réelle avancée sur la stabilisation politique du pays.
Oui, mais comme nous l'explique la Stampa à Rome, ça n'a pas empêché l'hôte de la conférence, le président du Conseil italien Giuseppe Conte, de revendiquer le succès de ces 2 jours de discussion. Elles se sont terminées, certes, ces discussions avec la photo d'une poignée de main entre les 2 hommes forts de Libye, mais la Turquie a claqué la porte et tout le monde s'est séparé sans engagement concret pour un arrêt des combats sur le terrain et pour la tenue d'élections législatives. Mais Giuseppe Conte a donc ce qu'il veut. Il apparaît comme celui qui a repris la main sur le dossier libyen contre son rival en la matière, Emmanuel Macron, et il a conforté au passage son allié libyen Fayez al-Sarraj aux commandes du fragile gouvernement reconnu par la communauté internationale. Et si les Italiens ont tant besoin de Sarraj à la tête de la Libye, c'est pour gérer avec lui la question migratoire, on le sait, cette question qui obsède tant l'exécutif transalpin. Sur le sujet, la Repubblica publie une longue enquête sur les faux-semblants des Italiens et plus largement des Européens en matière migratoire. Les journalistes de la Repubblica ont écumé pendant des semaines, la zone maritime de recherche et de secours, la SAR libyenne qui a été mise en place cet été et qui a permis, on le sait, aux pays membres de l'UE de confier officiellement aux gardes-côtes libyens préalablement formés et équipés la responsabilité des opérations d'aide aux navires en difficulté au large de leurs côtes. Cette stratégie, c'est une terrible farce, lit-on, une fiction politique et militaire qui, sous couvert de légalité internationale et de secours en mer, masque des opérations avant tout policières et menées trop souvent avec une grande brutalité. La Repubblica raconte que le soi-disant centre de coordination des secours libyens est quasi inexistant, à peine joignable sur les ondes de radio, par téléphone ou par mail. Et quand ces équipes vont sauver des naufragés, ils oublient des survivants dans l'eau. C'est arrivé l'été dernier, raconte des membres d'ONG qui, on le sait, ont été chassés du secteur. Conclusion pour la Repubblica, eh bien, on ne peut plus faire mine de l'ignorer. Avec les gardes-côtes libyens, l'Europe s'est trouvé un faux-nez, un alibi qui lui permet de se laver les mains du sort de milliers de migrants africains.
Et puis on termine, Camille, à Los Angeles avec une cérémonie qui crée la polémique de part et d'autre de l'Atlantique.
Oui, vous entendez les cris de joie, les chants et les tambours de cérémonie. C'était le week-end dernier dans le parc central de Los Angeles, le déboulonnage d'une statue de Christophe Colomb. En lisant le Los Angeles Magazine, on comprend que c'était un combat de longue date d'élus municipaux et de militants des populations autochtones de Californie, les descendants d'Amérindiens plus généralement, contre cet hommage, donc cette statue rendue à Christophe Colomb qui était considéré par ces militants amérindiens comme le responsable du premier premier génocide de l'histoire en découvrant, entre guillemets, l'Amérique en 1492. Autant vous dire qu'une telle lecture de l'histoire fait bondir El País en Espagne, qui y voit une remise en cause particulièrement brutale et partiale de l'héritage espagnol aux Amériques. El País rappelle d'ailleurs que Colomb peut difficilement être considéré comme génocidaire en Californie ou même en Amérique du Nord pour la bonne raison qu'il n'y a jamais mis les pieds. C'est discutable, bien entendu, tout autant que cette analyse du très conservateur magazine The New American, pour qui le déboulonnage de Los Angeles est le dernier fait d'armes d'une nouvelle révolution culturelle gauchiste à l'œuvre aux États-Unis et qui veut mettre à bas, bien plus qu'une simple statue de Christophe Colomb, toute une civilisation, celle d'une Amérique blanche et européenne.
Merci.